Sixième partie. Chapitre 1.
Si nous versions, rien ne manquerait à mon bonheur, s'écriait Madame Beausire, toute blonde, toute rose, toute ébouriffée, perchée sur le siège où il avait fallu lui donner une place absolument, et où elle s'efforçait, avec un mélange de coquetterie et de bonté maternelle, d'amollir l'âme du cocher, un vieux grognon endurci. Versez, madame, s'il ne faut que ça pour vous contenter, grommela-t-il, lui jetant un regard de travers. Mais un petit sourire commençait à lui tirailler la lèvre sous sa grosse moustache, raide comme une racine de chien-dent. « Mes filles, regardez la nature !» exclamait la radieuse petite femme à chaque détour du chemin, et elle mettait presque sa vie en péril par sa vivacité à se retourner sur le coussin du siège, à se dresser, serrant à deux mains la baguette de fer du dossier, pour apercevoir derrière elle, comme elle disait, cette breakée de gens contents. Ils étaient 14, dans le grand break un peu désemparé, un peu cahotant, qui, avec son cocher rugueux et ses deux chevaux maigres, avait déjà fait tant de parties de campagne que les ornières semblaient le reconnaître. Oui, 14, car les deux petites maisons jumelles étaient vides, Julie seule restant au logis pour le garder. Sans le neveu de cousinette, Mademoiselle Fanchonne se fût naturellement trouvée fort malheureuse, et sans cousinette elle-même, il n'était pas de bonne fête pour Madame Beausire, qui avait une conscience. Quand on doit à quelqu'un plusieurs trimestres d'intérêt, quand on sait qu'on ne les paiera que dans un avenir fort incertain, c'est bien le moins, n'est-ce pas, qu'on ait de petites attentions aimables pour cette personne et qu'on lui offre une place dans le grand break, dans la journée joyeuse qui va manger, il faut bien le dire, une bonne partie du trimestre dû. Mais voici qu'une fois installé dans la grande guimbarde au ressort plaintif, on s'était compté. On était 13. Aussitôt, Madame Jacquier avait voulu descendre, portant son mouchoir de deuil à ses yeux, affirmant qu'elle n'était pas superstitieuse le moins du monde, mais que son docteur lui ordonnait d'éviter toute émotion. Déjà, la voiture roulait dans le chemin vert, à peine assez large pour elle, sous les branches basses des sorbiers. Chacun parlait à la fois, chacun voulait descendre pour se sacrifier au bien général, et le cocher, faisant la sourde oreille, roulait toujours. Pour arranger les choses, on cueillit au passage le cousin Vitalis qui faisait sa réaction matinale sur les dalles brunes de rosée devant la touffette. En un instant, il eut remis bas et souliers, pris son chapeau, remisé ses poules, tourné la grosse clé et il escaladait le break, enchanté d'être voituré pour rien, enchanté surtout d'avoir devant lui, sur ses deux longues banquettes, un auditoire à sa merci. Il prit la place du fond, celle qui tournait le dos au siège et où l'on attrapait tout le temps, à chaque chaos, des coups dans les épaules. Il la prit, non par discrétion ou politesse, mais pour avoir tout son monde en file sous son regard. On n'avait pas encore perdu de vue la touffette qu'il commençait à discourir, le buste en avant, ses deux mains osseuses serrant ses genoux. D'abord, on se relaya pour l'écouter. Cousinette était endurante et supportait une bonne dose d'ennui. Son neveu inclinait à trouver le cousin Vitalis fort remarquable. « Un autodidacte » souffla-t-il à Fanchonne, qui ignorait ce que ce grand mot signifiait et hocha la tête d'un air d'entière approbation. Puis on se lassa. L'auditoire n'écoutait plus que d'une oreille. Seul l'excellent Daniel Beausire, qui n'eût pas voulu faire de chagrin à une bouche en la priant d'aller bourdonner ailleurs, l'excellent Daniel continuait à écouter, même à encourager le parleur d'un sourire indulgent. La route, blanche et unie, traversait une belle forêt solitaire, silencieuse comme le sommeil, car en septembre, sous ses ramures épaisses, les oiseaux ne chantent plus. « Si nous chantions, nous !» proposa Madame Beausire du haut de son siège, retenant à deux mains son grand chapeau rond, presque un chapeau de fillette, qui battait des ailes autour de ses bandeaux ébouriffés. « Mes filles » commanda-t-elle avec un geste gai. « Mes filles, à vos guitares !» Les trois guitares étaient couchées sous la banquette, parmi les châles et les paniers, chacune dans sa robe de serge verte. « Qui les a mises là ? Qui les a mises dans la voiture ? » s'écria-t-on avec de grands éclats de rire. Madame Beausire déclara solennellement qu'elle les avait aperçus sous la banquette avant de monter et qu'elle soupçonnait le cousin Ananias de leur avoir fait cette surprise-là. Le cousin Ananias protesta avec indignation. Pour ce qui est des guitares, fit-il de sa voix aux notes aigres et chevrotantes, pour ce qui est des guitares, vous savez que je n'en pince pas et que je n'aime pas à en entendre pincer. C'est de la musique pas sérieuse, ça fait dim, dim, et voilà tout. J'en suis rassasié à la maison, ça se mange avec tout chez mes cousines. Ah, cousin, il nous est même arrivé de n'avoir à manger que de la guitare, s'écria la petite femme en riant. Pas de votre temps, non. Depuis que vous êtes avec nous, depuis que mes pauvres petites trient des timbres pour gagner leur vie, nous avons toujours eu de la soupe dans la soupière. Mais autrefois, oh là là, une pauvre veuve sans profession, avec quatre fillettes et le cher petit Francis que le bon Dieu m'a redemandé, et ma vaisselle tout ébréchée par le trimballage. Ah, cousinette, le ciel t'a bien aidée en t'épargnant tout ça. Et tu n'as pas ma gaieté. Avec Reynold, tu aurais été encore plus malheureuse que moi. » Ici, un brusque chaos la jeta, rouge et pantelante, sur l'épaule du cocher, qui lui déclara que si elle ne voulait point rester tranquillement assise comme une dame raisonnable, il ne répondait de rien. Son fragment d'autobiographie en resta là, coupé court, à la grande satisfaction de Madame Jacquier, qui trouvait de très mauvais goût qu'on fût pauvre ou qu'on l'avouât, si par malchance on l'était. Elle demanda précipitamment, avant que la trop communicative Madame Beausire eût repris son souffle et son équilibre, qu'on voulût bien chanter la brigantine. Valentine, qui savait toutes les romances, perla deux ou trois accords, fit un signe à la ronde, montrant ses petites dents fines et blanches dans un sourire radieux comme le soleil, puis elle entonna la complainte de Provence et la mena rondement jusqu'au dernier « Provence, adieu !» Rouler, trier, cadencer, suivant la tradition. C'est trop triste, ça, vous savez, dit Valentine. Laissons les complaintes pour le retour, quand nous serons tous mélancoliques d'avoir la belle journée derrière nous. Je propose, mon père avait 500 moutons, et presto, presto. Sa voix haute et claire, presque une voix de jeune garçon, avec son vibrant timbre de cloche, s'est lancée crânement, et la mesure, à chaque couplet, devenait plus rapide, et les syllabes se pressaient, si bien qu'aucun gosier à la fin n'y put suffire, et que les chanteurs des poumonnés, pris de fou rire, se jetèrent en arrière contre les dossiers, laissant Valentine imperturbable achever ses longs l'air, longs l'air, longs là, avec des roulades de canaris en délire. N'avez-vous pas honte? Cria-t-elle. Une machine à coudre dirait longs l'air plus vite que vous. Mais je vous délirai la langue. Vous allez chanter avec moi trois petits couteaux dans une gaine et une amende pour celui qui n'arrivera pas à huit petits couteaux. Monsieur Antoine, je vous tiendrai quitte à six par faveur. Veuillez me donner dispense, mademoiselle, dit-il, très ennuyé de faire le trouble fête. Il regrettait déjà d'avoir accédé au désir très pressant de sa belle-mère d'être de la partie de campagne qu'organisaient les dames Beausire. Mes nerfs, avait déclaré Madame Jacquier, mes nerfs sont dans un si triste état après tous nos chagrins que j'ai absolument besoin de distraction, de changement d'air. Une course en voiture est tout juste ce qu'il me faut. Ton père m'en accordait une ou deux chaque été. Ah, que ne puis-je encore l'entendre me dire, ma pauvre Zéline, tes migraines augmentent, tes nerfs sont tendus, une course en voiture te devient nécessaire. Quel mari j'ai perdu, personne ne le saura jamais. Dis à ces dames de nous réserver trois places dans leur break, Antoine. Nous aurons un joli panier de provisions. Quoiqu'en grand deuil, je n'estime pas que les convenances nous interdisent d'aller respirer l'air des forêts. C'est un plaisir d'un genre sérieux, c'est même un devoir au point de vue de la santé. Quand Madame Jacquier exprimait un désir, le plus simple était d'acquiescer tout de suite. Qu'on discutât deux jours, huit jours ou quinze, le résultat était le même finalement. Chargée de beaucoup de crêpes, plus qu'il n'est commode d'emporter pour aller à la campagne, Madame Jacquier espérait bien, par son attitude et sa conversation, répandre sur toute la société une humeur confortablement endeuillée, quelque chose comme l'humeur d'un repas d'enterrement, où l'on mange et boit avec satisfaction, tout en se retenant d'être trop jovial. Au déballage des guitares, sa consternation fut grande. Et si elle demanda la brigantine, c'est que les épanchements de Madame Beausire lui devenaient insupportables. D'ailleurs, autant la brigantine qu'autre chose, puisque ces bruyantes créatures tenaient à remplir l'air de clameurs. « Ah, j'oubliais !» fit Valentine un peu confuse, voyant la mine grave d'Antoine. « Ça vous ennuie qu'on chante? Ça vous choque ?»« Pas le moins du monde, » fut-il bien obligé de répondre, les yeux sur Juliette qui semblait mal à l'aise. « En avant donc pour les petits couteaux !» cria Valentine, persuadée au fond de l'âme qu'amuser un peu ces pauvres gens en deuil serait faire une excellente action. Pour s'isoler de ce joyeux vacarme et témoigner sa désapprobation, Madame Jacquier s'accota dans son coin et dénoua les rubans du ridicule de satin noir qui pendait à son bras et dans lequel, au départ, elle avait précipitamment glissé le courrier du matin. « Je vais lire mes lettres, » pensa-t-elle. « Ensuite, je porterai ma main à mon front pour faire comprendre que la musique me fatigue quand je suis dans ma correspondance. » S'il le faut, j'irai jusqu'à respirer mon flacon. Trois lettres, une pour Antoine, tiens, avec un timbre officiel. Je la lui passerai en temps convenable. Si nous nous mettions tous les deux à lire, ce serait trop marqué. Deux lettres pour moi, l'écriture de cette chère Madame Dumorel. Ah, qu'il me tarde de savoir! Avec un léger clignement d'yeux du côté de Juliette, Madame Jacquier insinuait le bout de son doigt dans l'enveloppe pour la déchirer, quand André, assise à côté d'elle, se hâta de la prévenir en lui passant un petit canif. « Merci, André, merci. Je déteste déchirer les enveloppes, mais j'ai oublié mon ouvre-lettre. C'est l'ennui des parties de campagne, on n'a pas sous la main toutes ces petites choses commodes. Ainsi, pour ce pique-nique... « Comment vais-je être assise, à moins que vous ne me trouviez une pierre plate ?» André est vraiment fort attentif, pensait-elle, beaucoup plus qu'Antoine. C'est bien le moins d'ailleurs, après tout ce que j'ai fait pour lui. Mais il est terriblement gauche malgré sa bonne volonté, le pauvre garçon, et il y a certains services qu'il sera toujours incapable de me rendre. Faire des paquets, par exemple. Jamais mon cher bon mari ne me laissait seulement nouer une ficelle. Qui le ferait pour moi maintenant? André ne le peut pas, Antoine n'y pense pas, Julie prend des airs indignés si je la dérange pour ces choses-là. Ah, que tout est changé pour moi en ce monde! Et cependant, si Antoine voulait, je pourrais être presque aussi heureuse qu'auparavant, avec des regrets, bien sûr. Mais voyons ce que m'écrit Madame Dumorel. « Et moi, je vous dis et je vous annonce, » criait Mickey, « que cette voiture est une véritable boîte à surprises. Vous n'avez pas tout vu quand vous avez vu les guitares. Juliette, tiens-toi ferme. Les choses les plus imprévues arriveront aujourd'hui. D'heure en heure, se passeront des événements. Il y en aura pour chacun. » Cousinette, avec un petit plissement de lèvres ironique, se demanda sotto voce si l'on allait peut-être lui payer son trimestre d'intérêt, et Madame Jacquier, repliant sa lettre qu'elle lissa soigneusement, murmura à part elle « Plus d'événements encore que vous n'en prévoyez, ma chère !» Au même instant, un volatile fort lourd, aux ailes bruyantes et au caquetage effaré, passa comme un boulet si près de son visage qu'elle se jeta en arrière avec un cri. Une grosse poule blanche, éperdue, le cou tendu, battant de ses ailerons courts et courant tout droit de genou en genou vers le fond du break, vers Vitalise Lubois. La poule fidèle, criait Mickey en battant des mains. Cet événement s'appellera la poule fidèle qui n'a pu quitter son maître, ou la poule magnétisée par une élève du docteur Charcot. Arrêtez-la, retenez-la! Faisait le cousin Vitalise, jetant à droite et à gauche ses grandes mains osseuses. « Elle va voler hors de la voiture !»« Touchant, touchant !» disait Valentine, s'épongeant les yeux, car elle pleurait de rire. « Cette poule nous suit depuis la maison, sans doute. Volait-elle dans l'air au-dessus de nous, tenant dans son bec un rameau de votre jardin, monsieur Vitalise ? Ou bien s'était-elle fourrée dans une des guitares, comme le petit garçon du comte, vous savez ? le petit garçon qui voulait absolument aller sur mer. « Faut-il que cette poule vous aime, monsieur Vitalis ? Quand nous raconterons notre expédition, le chapitre s'intitulera « Celle qui aimait monsieur Vitalis ».»« Bricotte !» exclama sa mère, levant les mains au ciel. « Mais sois donc sage, mon enfant. Tu passes les bornes, tu deviens légère. Que va-t-on penser de l'éducation que je t'ai donnée ? Moi qui vous ai répété depuis votre âge tendre, soyez gaies, mes filles, mais pas légères. » Elle riait comme une folle, la petite maman, et quand l'infortuné oiseau, d'un effort désespéré, heurtant aux têtes qui se baissaient son gros corps maladroit, s'élança jusqu'au dossier du siège, retomba, reprit son vol, et finalement roula sur les genoux maternels de Madame Beausire, celle-ci poussa un cri de triomphe. « Je la tiens, nous allons l'interroger !» Alors, ce fut un dévergondage de folie, de questions absurdes, de réponses faites avec l'accent présumé d'une poule de bonne famille, aimante mais fort timide. Le neveu de cousinette, auquel personne n'eût jamais prêté un don de drôlerie, se distingua comme interprète, proposa une quête en faveur de la prisonnière et de sa famille, et passa à la ronde son chapeau, qui lui revint, rempli des objets les plus divers. Aussitôt, Mickey proposa un autre jeu. Ce chapeau serait la poste, M. Vitalis le facteur, et l'on s'enverrait les uns aux autres des messages anonymes. « Il y a deux sortes de colis que notre bureau n'accepte pas. Écoutez, écoutez le règlement. Deux sortes de colis, les demandes d'argent et les demandes en mariage, mais ils délivrent tout le reste à domicile, discrétion garantie. Préparez vite vos petits paquets, le chapeau va passer. La fourniture du papier d'emballage et de la ficelle est mise au concours. » Le cousin Ananias était merveilleusement déridé depuis l'épisode de la poule. À mesure que Vitalis Dubois, vexé, devenait plus sombre, Ananias s'épanouissait. « Sont-elles adroites, ces fillettes ? » songeait-il, se frottant les genoux. « Elles vous ont escamoté cette poule comme une muscade pendant que nous étions en rumeur devant la touffette, sans doute, et que Vitalis pourchassait sa volaille dans les coins pour la faire rentrer. Elles l'auront cachée dans leur robe ou dans un panier. Elles sont drôles, ces petites, un peu à l'évent. On dirait qu'elles ne respectent personne. Mais à moi, par exemple, jamais elles n'y toucheraient. Qu'est-ce que je pourrais bien envoyer à Vitalis dans ce chapeau ? De la ficelle, j'en ai, cria-t-il, jetant à Mickey un petit peloton gris qu'il venait d'extraire de son gilet. Parmi les difficultés qu'il y a à se baisser, à se tourner dans une voiture où l'on est 14, parmi les chaos et les heurts et les rires, chacun préparait son courrier avec hâte et mystère, clamant pour avoir du papier d'emballage, suppliant les voisins de ne rien regarder, ne de rien révéler surtout. Madame Beausire demandait avec instance un bout de ficelle pour attacher la poule qui manifestait des intentions de suicide et se précipitait vers la croupe des chevaux à chaque distraction de sa gardienne. Le cocher, qui devenait facétieux, proposait de la relâcher sur parole. De tous côtés, on félicitait Vitalis de l'affection extraordinaire qu'il avait su inspirer à ce gallinacé. Valentine le conjurait de ne point désespérer un cœur tendre de poule. Les deux vieux cousins, un peu grisés par cette folie, faisaient presque autant de bruit que les jeunes. Vitalis protestait de sa voix sèche. Madame Jacquier jubilait de le voir fortement ennuyé. Les voix des fillettes tintaient comme un carillon. Le tumulte était à son comble. Et les deux chevaux maigres avaient comme de vagues envies de prendre le galop. À droite et à gauche de la route, la belle forêt silencieuse écoutait passer cette voiturée de clameurs. Sous les vastes branches entrecroisées, des abris de fraîcheur s'étendaient, clair-obscur, paisible, doucement gazonnés et semés d'aiguilles brunes, et les hautes fougères, droites comme des épées, gardaient ses retraites avec de longues traînes de ronces couchées dans l'herbe, au soleil et déjà merveilleusement tachées d'or. Parfois, la grave assemblée des arbres reculait, laissant au bord de la route une clairière, une barrière à demi écroulée, et dans un long bassin de bois que veloutaient des mousses, une eau sombre où le ciel clair semblait un ciel d'orage. Ou bien la clairière, plongeant en pleine forêt, ouvrait un horizon, très loin, même jusqu'au lointain bleu, même jusqu'aux dernières collines, transparentes comme l'air. et cette clairière, ombreuse d'un côté, avec son écroulement de blocs gris, massifs, qui ressemblait à un troupeau endormi, et ses grandes gentianes lasses de l'été, inclinant leurs têtes défleuries, et ses bouquets de thym lilas, parmi l'herbe courte, la clairière s'enfuyait vite, les hauts sapins revenaient, sévères, alignaient leurs rangs au long du chemin, ou s'y couchaient, grands troncs abattus, ruisselant d'odorantes résines. Parfois aussi un écureuil, en dessous léger, roulant du talus tapissé de serpolets et touchant à peine la route, rebondissait sur l'autre talus. On n'avait pas le temps de s'exclamer que déjà la petite boule fauve et son panache avaient disparu dans les basses branches. L'air n'était plus bourdonnant comme en été quand les petites mouches folles de chaleur le remplissent du murmure aigu de leurs ailes. Les petites mouches, lasses de vivre et de s'agiter, s'en étaient allées où vont toutes les vies, dans la poussière, et tout s'est fêtu, aiguilles sèches, fragments d'écorce, perles de pois transparentes comme l'ambre, moucherons, petites graines aux fins plumées de soie, attendaient dans leurs sillons les grands coups du vent d'automne qui devait les balayer. Quelques papillons, éployés comme une grande fleur tremblante, cherchaient la tiédeur d'un coin de mur, s'y balançaient languissamment au saillis de la pierre grise, et toute la lassitude de l'automne était dans ce lent frémissement d'ailes, dans le silence délicieux et triste de la forêt. Une clairière plus large s'ouvrit enfin, paisible et douce sous le blanc soleil, avec trois ou quatre sapins énormes, groupés, et le toit bas et gris d'une ferme au-dessus duquel l'air tiède vibrait. Une barrière était ouverte à l'entrée d'un chemin fait de deux ornières profondes comme des fossés où le grand break tomba par sauts fantastiques, s'inclinant à droite, à gauche, plongeant en avant, essayant de se mettre en travers ou en zigzag avec le timon. Belle occasion pour redoubler de rires et de cris et pour tomber les uns sur les autres, ce que les demoiselles Beausire exécutèrent avec un charmant abandon. Une secousse inopinée projeta Bricotte, les deux mains étendues, en pleine figure de Vitalis Dubois, et, comme la jeune fille rouge, étouffant de rire, s'exclamait « Ah, pardon, monsieur Vitalis, je vous ai fait mal !» « Pas le moins du monde, mademoiselle, vous n'avez qu'à recommencer, » fit-il d'une voix enrouée, presque émue. « C'est un plaisir, au contraire. » Chacun se regarda, la blonde maman Beausire, au-dessus de la tête de Vitalis inconscient, exprima par une pantomime bouffonne qu'elle le jugeait frappé au cœur. « Mais non, cria Mickey, c'est sur le nez que le coup a porté. » « Qui aime bien, frappe bien, » prononça Vitalis solennellement, ce qui, de rechef, fit pouffer tout le monde, tandis que lui, son chapeau placé en arrière sur les grosses touffes de ses cheveux gris, jetait à la belle Valentine un regard extraordinairement éloquent. « Prends garde !» murmura Juliette à l'oreille de sa sœur. « Il va devenir très ennuyeux dans un autre genre. »« Oh, devenir !» fit Bricotte avec un petit geste de son joli menton arrondi, évitant de tourner ses trop beaux yeux vers les yeux gris obstinément rivés sur elle. On descendait de voiture.